et les aiguilles sont comme figées. Ta vie se réduit à l'attente. Au fond du jour compte celui où tu sors, celui où tu entres. Entre, mais tous les jours se ressemblent. Tout tourne en boucle et se répète comme un vieux sample. Tourmenté par les remords car tu fais pleurer la mama. Tu sais comme IG, elle voudrait no more drama. Si les sentiments le pouvaient, son amour te ferait évader. Tu cherches une raison pour te ranger, tu n'as qu'à la regarder. Au milieu des loups, tu ne peux afficher tes faiblesses. Tu marches la tête haute, même quand ton cœur est en détresse. Le maton te guette, tu dois te cacher pour pleurer. T'accrocher à la raison quand la folie vient t'effleurer. Pour tous les frères la carcérée, je chante les vérités que l'État veut enterrer. Parce que vous êtes forts, vous vous cachez pour pleurer. Quel que soit vos torts, je déplore ce que vous endurez. Alors j'écris un truc pour tous les frères incarcérés. Je chante les vérités que l'État veut enterrer. Au pays des droits de l'homme, vous cachez pour pleurer.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
André Roche, bonsoir.
Bonsoir.
Dans votre livre « Paresse, histoire d'un péché capital », on s'aperçoit que cette paresse a traversé notre histoire en ayant une place importante, controversée, mais toujours avec le même, pourrait-on dire, travers. C'est l'histoire originelle, c'est-à-dire c'est un péché.
Alors effectivement, on l'a décrit comme un péché. Un péché qui, à un moment donné, s'appelle « Assédi ». Et qui, en fait, comprend deux grands tourments. Le premier, c'est que l'assédiaque est quelqu'un qui, à un moment donné, ne veut plus prier, ne veut plus contempler Dieu. Autrement dit, il abandonne sa foi, mais par ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui souffre de cette situation. Autrement dit, il y a cette ambiguïté de l'abandon de la valeur qu'est ici la divinité, et par ailleurs la souffrance intérieure qui est ici une sorte de vide de l'âme qui est présentée par Évagre le Pontique au début du christianisme, c'est-à-dire au début du 4e, 5e siècle. Alors ensuite, il y a une évolution, c'est-à-dire que on ne va pas rester dans la contemplation. Au moment en particulier lorsque Martin Luther, au XVIe siècle, fait ses premières critiques, ce qu'il va dévaloriser, c'est précisément la contemplation du moine, c'est-à-dire de quelqu'un qui, entre guillemets, ne fait rien. Et il va valoriser, en revanche, le travail, c'est-à-dire ce qui va permettre aux chrétiens, en quelque sorte, de gagner son salut.
Alors, tir au flanc, fainéant, indolent, négligent, branleur, neurasthénique, flemmard, oisif, assédi, vous l'avez dit, incurie, maladie mentale, dépression, vice, faute, carence, paresse, c'est l'oreiller du diable, j'aime bien la formule, offense vis-à-vis de Dieu, absence de civisme pour le siècle des Lumières ensuite, servitude, glandeur, j'en foutre, je m'en foutisme, on ne peut pas dire que les qualificatifs soient positifs.
Vous avez tout à fait raison. Je ferai deux remarques. La première, cette façon de qualifier le paresseux, elle vient de qui ? De celui qui tient en son pouvoir une autre personne. Autrement dit, en stigmatisant la paresse avec tous les vices que vous venez d'évoquer, eh bien, celui qui parle se met dans une position de domination. D'une certaine manière, il s'est approprié ce personnage qui tout à coup se montre indocile. La deuxième remarque, c'est que il y a aussi tout un pan de la paresse qui est positif. Je pense en particulier aux travaux de Paul Lafargue lorsque il invoque la paresse précisément pour créer une tension entre celui qui est qualifié de subordonné et celui qui le domine. Il y a aussi cet avènement à la fin du 19e et au début du 20e, de ce qu'on appellera les loisirs. Et dans le loisir, il y a une paresse autorisée, une paresse qui d'une certaine manière est le fruit du travail, non seulement qui permet de retrouver son énergie, mais qui va aussi être en quelque sorte la récompense de ce que l'on a fait.
Tout à fait.
Ce sont ces aspects-là qu'il faut peut-être rappeler pour évoquer le fait que, entre guillemets, celui que nous avons qualifié de paresseux, à partir du moment où il reconquiert sa liberté, c'est-à-dire qu'il se libère de celui qui le maltraite, en l'appelant paresseux, feignant, indolent, etc., etc., c'est une conquête, c'est la mère des vertus, c'est la mère de la liberté.
On verra ça, oui, que c'est une, en fait, c'est une conquête révolutionnaire qui apparaît pleinement au 19e siècle, mais on reviendra sur cet aspect des choses. Il y a quelque chose quand même qui est contradictoire, parce que au départ, Adam et Ève, si l'on en croit la légende, étaient dans le paradis, et en fait, ils ne faisaient rien, quoi. Alors, quand ils ont découvert la pomme et le serpent, ils ont été en sanction, chassés de ce paradis terrestre, pour être obligés de travailler. Alors, comment se fait-il que ce qui apparaît comme une sanction, le travail, devienne une qualité, alors que la paresse, qui était le paradis, devienne un défaut?
Premièrement, ce qui advient à Adam et Ève, dans la légende, ou on peut dire aussi dans la mythologie, ce qui leur advient, c'est qu'ils perdent l'éternité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? L'éternité, c'est hors du temps. C'est pas la perpétuité. La perpétuité, ça veut dire que le temps s'arrête pas. Mais là, dans l'éternité, on est hors du temps. Or, précisément, en étant chassés du paradis, ils entrent dans le temps. Et le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux, en ce sens que c'est ce temps que nous allons occuper. Et le paresseux, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de son temps, qui ne sait pas ou qui ne veut pas se servir de son temps, qui le laisse traîner. Qui d'une certaine manière est dans l'atermoiement. Alors de ce point de vue, le plus beau texte que j'ai vu, c'est celui de Gontcharov, qui s'appelle Oblomov, qui paraît en 1859 en russe. Et qu'est-ce qui advient à Oblomov? Oblomov, il a peur qu'à un moment donné, quelque chose advienne. Autrement dit, il voudrait que tout reste en l'état, que rien ne change. Éventuellement même, il voudrait ne pas aimer parce que aimer, ça suppose qu'on occupe son temps. En ce sens, pour répondre à votre question, l'avènement de l'histoire, c'est l'avènement du temps, de la temporalité. Et toute cette histoire de la paresse, elle est précisément dans la question du rapport de l'individu, de l'humain, avec son temps.
Oui, mais à Oblomov s'oppose Barthélemy, qui lui est aussi un paresseux, mais on s'aperçoit qu'il y a déjà, ça commence à avoir une revendication sociale, c'est il est paresseux parce que c'est un rebut de la société.
Alors vous avez raison, le problème, tout à fait, le problème d'Oblomov, c'est le fait qu'autour de lui, la société industrielle qui vient de l'Occident est en train de s'installer, et il n'en veut pas, il refuse ceci. Autrement dit, c'est un nostalgique. Marc Lévy, c'est pas tout à fait la même chose. Au contraire, là, il s'agit de réagir. Il s'agit de montrer à quel point la société est menacée par d'autres problèmes que celui que Oblomov, disons, par d'autres solutions que celles que préconise Oblomov.
Alors, on va faire un saut dans le temps et on arrive aux Lumières. Découverte de nouveaux mondes, de nouvelles civilisations. Et on peut dire que les philosophes ou les penseurs du siècle des Lumières étaient un peu le cul entre deux chaises, à la fois ce côté les sauvages, libres, en dehors de contraintes, et puis la nécessité de devoir travailler pour s'intégrer dans une société qui remet en cause l'aristocrate, qui est un gros feignant en fait.
Alors effectivement, vous mettez le doigt sur la plaie, cher ami. La question que pose au siècle des Lumières, en particulier Rousseau ou Montesquieu, c'est la suivante. À savoir que pour Rousseau, d'une certaine façon, c'est assez simple. L'homme, avant d'entrer en société, il ne fait rien. Autrement dit, il végète et il ne se préoccupe absolument pas d'un lendemain éventuel. Une fois qu'il est en société, d'une certaine manière, il doit sa citoyenneté. Autrement dit, c'est le travail qui va lui permettre de, entre guillemets, alors c'est pas un mot de Rousseau, c'est moi qui le dis, qui va permettre de rembourser ce que la société lui a donné. Et le siècle des Lumières va précisément sortir de ce qui est de l'ordre du religieux, de l'ordre de la morale, pour installer le concept politique qu'est ici la paresse, à savoir que le paresseux, d'une certaine manière, puisqu'il ne paye pas à la société ce qu'elle lui apporte, eh bien, il est un délinquant. C'est quelqu'un qui commet un délit. On est dans une réflexion politique, là où précédemment on était dans une réflexion religieuse, morale, oui, on peut s'arrêter à ces deux qualificatifs.
Alors, on s'aperçoit, ce que je disais dans la première question, c'est que toutes les évolutions de la société abordent ce thème de la paresse. Alors c'est normal puisque vous avez écrit un livre sur la paresse, mais enfin ça se retrouve quand même objectivement. Et parce que on s'aperçoit par exemple que l'arrivée de la psychanalyse s'empare de la paresse parce que ça devient une maladie. Donc on s'aperçoit que toutes les évolutions de notre société s'emparent de ce thème de la paresse.
Alors vous avez raison. La nouveauté qu'introduisent les psychanalystes, les psychiatres ou les psychologues, etc., la nouveauté, c'est la suivante. Jusqu'ici, le paresseux, c'est quelqu'un qui doit aller en enfer ou c'est quelqu'un qui devient un délinquant et donc il faut le punir. Eux nous disent non, c'est pas de cet ordre-là, c'est de l'ordre de la maladie. Il faut pas le punir, il faut le soigner. Donc ça, c'est un bouleversement très profond à ce sujet.
Mais dans tous les cas, quand même, c'est la stigmatisation de la paresse, d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on est malade, c'est qu'on n'est pas totalement maître de soi, conscient, et voilà, et on s'adonne à la paresse, parce que c'est une maladie, quoi, en quelque sorte. Donc c'est toujours stigmatisé.
Oui, bien sûr, mais la différence, c'est que de la punition, il ne sortira rien. Tandis que des soins que l'on applique aux malades, il y a l'espoir de guérir. Alors, je réponds par ailleurs à votre deuxième question. Vous me dites, la paresse est toujours stigmatisée. Bon, c'est vrai que dans la littérature, ça occupe beaucoup de place. Il n'empêche que Paul Lafargue, ça existe. Raoul Vaneghem, ça existe. L'aventure hippie, ça s'est produit. La peinture impressionniste, qui en ce moment est à Orsay, avec Manet, Monet ou Courbet, ça existe. Donc, si on réunit tous ces témoignages, en quelque sorte, qui donnent à la paresse un autre nom que celui du vice ou de la faute ou du péché ou de la délinquance. Si on la qualifie en disant que c'est un moment de récupération, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de gratification, c'est un moment de loisir, c'est un moment où on peut s'inventer soi-même, ça change complètement le regard, voyez-vous. Dans un contexte qui aujourd'hui est tout de même relativement pessimiste dans la société française contemporaine, on a du mal à croire à ces qualifications plus élogieuses du fait de ne pas travailler et d'avoir une autre occupation que celle qui est un devoir. Le travail salarié, c'est une chose, mais il peut y avoir un travail qui, lui, n'est pas fait pour gagner un salaire, mais qui est fait pour la réalisation de l'individu.
C'est ça. Alors, c'est l'arrivée peut-être du travail omniprésent et triomphant de la révolution industrielle qui a tout envahi, notamment avec l'arrivée et la montée en puissance du salariat, qui fait que certains penseurs ont dit, mais finalement, la paresse a des côtés positifs, révolutionnaires, d'existence. Alors, Nietzsche a été peut-être important dans cette bascule, vous avez dit Lafargue, c'est-à-dire que on change un peu de registre et on s'aperçoit que vive la paresse. Et il y a même certaines personnes qui disent il faut apprendre à être paresseux parce que c'est pas évident.
Alors, je répondrai sur trois points. Le premier, chez Paul Lafargue, il y a d'abord une critique des droits de l'homme. Pour lui, dans les droits de l'homme, il n'y a pas inscrit ce droit à la paresse. Donc ça, c'est une première observation qu'il fait. La deuxième observation, c'est que petit à petit, le travail, et en particulier le travail salarié, a créé une sorte de culte, de passion de travailler pour gagner plus d'argent. En l'occurrence, c'est travailler plus pour gagner plus.
Hein. Et consommer plus.
Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce culte contre lequel Paul Lafargue nous mobilise. Et puis enfin, chez Paul Lafargue, il n'y a pas l'idée que ceux qui ne travaillent pas, autrement dit qui vivent de leur rente et de leur patrimoine, se mettent à travailler. C'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est de faire en sorte que on puisse démocratiser la paresse. Autrement dit, démocratiser le temps libre. Ça, c'est important pour lui. Maintenant, il y a une deuxième chose que vous soulignez avec pertinence, et qui est que il faut apprendre à ne rien faire. Il faut apprendre à goûter la paresse en tant que affinité, quelque chose qu'on peut aimer. Cette remarque qui vient de Raoul Van Engem, elle est fondée sur quoi? C'est que l'ensemble de notre vie scolaire, l'ensemble de notre système éducatif, il est orienté vers quel travail je vais faire plus tard. Autrement dit, il est essentiellement question d'apprendre à travailler. Or, face à cette montée en puissance de la recherche, de la profession, du métier que l'on va exercer, etc., eh bien, le fait de dire « mais oui, mais il faudrait peut-être aussi apprendre à paresser » est quelque chose qui est à la fois révolutionnaire et extrêmement difficile, parce que le mouvement ne va pas dans ce sens-là. Je voudrais ajouter une chose que j'avais étudiée à un moment donné, c'est qu'on dit « les loisirs pour l'ensemble du peuple français, et en particulier des salariés », c'est 1936 et les grands départs. C'est pas vrai. Ils sont pas partis en 1936. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les vacances, le loisir, ça se programme. Parce que il faut apprendre à utiliser un guide, il faut apprendre à utiliser, etc. Or, ça fait pas partie de la culture ouvrière de ces années-là. Donc, en ce sens, il y a ici tout un apprentissage à concevoir. Et comme vous l'avez souligné il y a quelques instants, le fait d'apprendre aux gens à consommer n'est pas peut-être l'ensemble de ce que exige aujourd'hui l'apprentissage de la paresse.
En fait, ce mot cache, ça sera ma dernière question, c'est le sommet de l'iceberg, parce que en fait, ce qu'il faut mettre à l'honneur et en valeur, c'est ce que permet de faire la paresse.
Tout à fait, tout à fait. C'est ce que permet de faire la paresse, mais attention, nos loisirs aujourd'hui sont des loisirs où il faut absolument faire quelque chose. Quelqu'un qui revient de vacances et qui dit « bon, non, je me suis reposé », on se demande à quoi bon lui donner des vacances. Donc, dans cette idéologie d'activer, de faire en sorte que les gens fassent quelque chose, entre guillemets, « consomment », eh bien, il y a aussi une réaction qui est que apprendre à chacun d'entre nous à s'occuper soi-même, à savoir ce qu'il aime, à savoir ce dont il a le désir, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans la société de consommation, qui n'est pas essentiel. Dans la société de consommation, la seule chose qu'on dise, c'est voilà le produit, vous pouvez l'acheter. Or, précisément, l'apprentissage de la paresse, au sens positif du terme, autrement dit, à l'inverse de ce que nous disions tout à l'heure, c'est le moment, les moments où peut-être même cette persistance du sujet à savoir, à se demander, à chercher ce que profondément il a le désir de faire ou de ne pas faire.
Écoutez, André Roche, merci, on pourrait continuer longtemps. Je vais vous lire une des citations que vous avez inscrites dans votre livre. paraissent histoire d'un péché capital. D'ailleurs, tout est résumé dans ce titre. Il y aurait un livre à faire sur la paresse. Cet ouvrage ne pourrait être écrit que par un paresseux. Mais les paresseux sont bien trop occupés à se tourner les pouces. Alors, est-ce que ça n'a pas été trop difficile d'arrêter de vous tourner les pouces ?
Alors, je voudrais rendre à Gustave-Henri Josseau cette citation que j'ai trouvée lors d'une exposition qui lui était consacrée, donc l'Évangile de la paresse. En ce qui me concerne, c'est vrai que c'est un effort, c'est vrai que ça suppose que d'un jour à l'autre, on allonge les lignes, les pages et les chapitres, mais c'est quelque chose qui, pour moi, était d'une certaine façon... une réalisation de ce que je pensais, de ce que je voulais montrer et de ce que je voulais me montrer à moi-même. Merci de m'avoir interpellé sur le sujet.
En tout cas, on peut se tourner les pouces en lisant votre livre et en ayant beaucoup de plaisir. Merci, bonsoir, bonne soirée.
À vous de même, bonne soirée. Change et que ça bouge, lève-toi car il est temps.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, asservies, humiliées, les femmes. Acheté, vendu, violé, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Les femmes et de nos sœurs séparées, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
Tous ensemble, tous ensemble, tout en restant dans le monde du spectacle, artistes, techniciens.
Est-ce que quelqu'un est fatigué? Est-ce que quelqu'un est fatigué? De faire tomber la machine, de faire tomber la machine. Taper sur un clavier, taper toute la journée, pour faire tourner la machine, pour faire tourner la machine. Toujours courir, toujours presser. Est-ce que quelqu'un est fatigué? Courir après la machine, courir après la machine. S'il faut mourir, laissez rouiller la machine, laissez rouiller la machine. Est-ce que quelqu'un voudrait ralentir, partir en roue libre, s'affranchir de la machine, de la machine. Est-ce que quelqu'un est fatigué? Est-ce que quelqu'un est fatigué de faire tourner la machine? De faire tourner la machine, que quelqu'un est fatigué.